Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama Suivi au Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Et dans ce numéro de ce lundi 21 octobre, nous revenons sur les qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Oui, déjà il y a des qualifiés. La CAN de Bichsak, le COMEX de la CAF, entendez, comité exécutif, et son congrès ordinaire demain à Addis Abeba en Éthiopie. La Ligue des champions en Europe, le début de la NBA demain ici aux États-Unis et le retour gagnant de Francis Ngannou en arts martiaux mixtes. Avec nous, comme d'habitude, Élisée Nkpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin où il fait un très bon temps.
Ah ouais, après la pluie la semaine dernière, cette fois-ci il fait un bon temps, tant mieux. Jules Valentin Ngwe nous rejoint depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons bien évidemment Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Fin donc mardi dernier des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Avec des qualifiés pour la phase finale, en plus du pays hôte, le Maroc bien sûr. Ils sont sept à avoir composté leur ticket pour la phase finale. Amine Birouk, la République démocratique du Congo, l'Angola, l'Algérie et l'Égypte l'ont réussi surtout avec brio. Quatre matchs, quatre victoires.
Quatre matchs et quatre victoires. Certains dans la difficulté, d'autres un peu plus aisément. On peut parler de la facile victoire de la République démocratique du Congo en déplacement face à la Tanzanie 2-0, ce qui en dit long sur les progrès effectués par cette équipe entraînée par Sébastien De Sabre, qui avait réussi déjà lors de la dernière CAN à s'extirper des phases de groupe, des huitièmes, des quarts et arriver dans le dernier carré de la compétition. L'Égypte a plus souffert à Nouakchott en Mauritanie, 1-0, une victoire sur un exploit individuel de Adel, une frappe derrière le rond central qui a surpris le gardien mauritanien, mais qui en dit long sur la solidité d'une équipe qui n'a pas concédé de but. Idem pour l'Algérie, qui avait déjà réussi à battre le Togo sur le score de 5-1 et qui a récidivé par la plus petite des marges, un succès qui condamne quasiment les Togolais. Puis, que dire de cette équipe du Burkina Faso qui a réussi une victoire contre le Burundi et qui demeure aujourd'hui une solide référence en Afrique. En tout cas, on a vu beaucoup de sélections qui ont réussi, je dirais, des résultats avec notamment quatre victoires d'affilée. Et on verra s'ils continueront avec ce registre de résultats immaculés lors de la prochaine fenêtre du mois de novembre. Égyptiens, Algériens et Congolais ont bien brillé.
En tout cas, Amdine Sy, Amine le disait tout à l'heure, il n'y a plus de suspense dans le groupe du Sénégal et du Burkina Faso. Ces deux pays ont scellé le sort de leur poule en enlevant les deux billets en jeu pour le Maroc.
Tout à fait. Et chapeau pour les étalons du Burkina Faso qui sont pour le moment leaders de ce groupe. On est à la barbe du Sénégal puisque les Burkinabés ont vraiment assuré l'essentiel en terminant pour le moment, et en étant la première équipe à se qualifier sur le rectangle vert. Il fallait le faire et les Burkinabés l'ont fait. Le Sénégal vient après, puisque les Sénégalais, malgré quand même le départ de Aliou Cissé à la surprise générale, ont bien négocié la double confrontation contre le Malawi en s'imposant à domicile par 4-0. Je l'avais dit, contre une modeste équipe du Malawi qui a été diminuée, qu'ils étaient à 10 depuis la 15e minute. Au match retour, ça a été plus difficile, puisqu'il y avait les conditions, il y avait la pluie, c'était vraiment difficile. Et cette équipe du Malawi a tenu tête au Lion de la Teranga. Il a fallu attendre la 96e minute pour voir Sadio Mané, une self, délivrer cette formation du Sénégal en marquant un coup franc. Ça faisait très longtemps que le Sénégal n'avait plus marqué sur coup franc direct. Je pense que c'est Ghana qui avait réussi ça et ça date de très longtemps. Mais l'essentiel a été fait puisqu'il fallait se qualifier et les Lions de la Teranga l'ont fait. Maintenant, il reste la finale, la finale du groupe qui va se disputer entre Sénégal et Burkinabé, et ce sera peut-être à Abidjan, puisque le Burkina reçoit en Côte d'Ivoire, mais ce sera la finale du groupe entre Sénégal et Burkinabé, et on va voir laquelle des deux équipes va prendre quand même la tête de ce groupe pour C'est un match pour l'honneur et on verra ce que ça va donner, Yacouba.
Bien évidemment, on verra ce que ça va donner. En attendant, alors Jules, la qualification a été acquise également par le Cameroun dans cette double confrontation finalement face au Kenya.
Oui, bien sûr. Ça, c'était attendu en principe, dans la mesure où le Cameroun qu'on a vu en Côte d'Ivoire était considérablement diminué et il avait perdu ses joueurs clés et son animateur principal de l'attaque qui joue à Brentford, Mbeumo, et était, disons, éliminé physiquement. Donc finalement, c'est une équipe très limitée qu'on a vu là-bas avec un environnement très difficile en interne et qui a eu de la peine à sortir, et, disons, de la première partie de cette CAN. Et donc le Cameroun a récupéré tous ses joueurs et ce sont des joueurs qui se sont mis au niveau et la calmie qu'il y a eu au niveau de l'équipe nationale a permis donc que là, il passe à la vitesse supérieure. La poule n'est pas facile, en fait, parce que le Zimbabwe, le Kenya et la Namibie sont des nations qui gênent souvent les plus grands du continent. Mais finalement, le Cameroun a tenu son rang et il y a le retour du Zimbabwe aussi qui fait plaisir. Et je crois que de cette poule-là est sorti quand même un grand football.
Alors, il y a également des équipes qui sont en pole position pour rejoindre le Maroc. Mais Élisée, on va parler des équipes en danger, surtout d'une, bien sûr, qui fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit du Ghana. Ce ne sont pas les joueurs qui manquent à cette équipe-là. Qu'est-ce qui ne va pas au sein des Black Stars?
Oui, c'est la transmission, il faut le dire clairement, puisque depuis un certain moment, eh bien, le Ghana n'y arrive plus. Malgré ces stars, ces grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs en Europe, notamment les Kudus, les frères Ayou, et pour ne citer ceux-là, même le milieu terrain d'Arsenal ou encore de Leicester, vous imaginez, le Ghana, c'est pas le talent qui manque. Il y a des joueurs talentueux, il y a aussi ces joueurs qui ont l'expérience, tous ces joueurs qui évoluent dans des grands championnats en Europe, vous imaginez, mais encore, ça ne marche pas. Quand eux tous y viennent en sélection, eh bien, c'est difficilement que cette sélection arrive à faire de très bons résultats. En témoigne, hein, cette défaite contre le Soudan, vous imaginez. Donc, quelque chose ne va pas clairement au sein de cette sélection. Et aujourd'hui, le Ghana n'ira pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait très longtemps qu'on a vu cela. C'est une première pour ce pays, ce grand pays du football, puisque quand on parle du football en Afrique, quand on prend l'Égypte et le Cameroun, systématiquement, c'est le Ghana qui vient. Vous imaginez, un grand pays du football sur le continent africain sera privé de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grosse déception. Le sélectionneur fera bien sûr les frais très bientôt, mais il faut le dire, la relève peine à prendre du côté de ce pays-là, puisque quand on prend les catégories d'âge, le Ghana répond toujours présent, mais le Ghana n'arrive plus à décrocher un trophée sur le continent, que ce soit au niveau des moins de 17 ans, où le Ghana est le pays le plus titré dans cette compétition. Quand on prend les moins de 20 ans, le seul pays à avoir remporté la Coupe du Monde des juniors, quand on prend les seniors, vous imaginez qu'aujourd'hui, le Ghana peine à se faire remarquer sur le continent. Le problème est profond et il faudrait que les dirigeants à tous les niveaux puissent réagir, puissent revoir ce qui ne va pas afin de permettre à ce pays-là de commencer de nouveau par nous faire rêver.
On espère bien pour les Black Stars. Alors, Jules, il y a aussi la Tunisie qui réussit pourtant, souvent, il faut le dire, ces phases éliminatoires, même si ça ne suit pas forcément lors de la phase finale. La Tunisie, un peu en danger.
Oui, la Tunisie, mais il faut dire également qu'elle a eu un match piège contre les Comores. Les Comores représentent une équipe ascendante qui, depuis quelques années, presque une dizaine d'années, fait beaucoup de mal aux gros cylindrés en Afrique et dont la Tunisie s'est fait surprendre chez elle et ça a cassé une dynamique. Il faut maintenant se reprendre. C'est ça le véritable problème. Ils ont encore leur destin entre leurs mains. Il faut le dire, c'est le premier de la poule, mais ce sera plus disputé.
Bien sûr, ce sera plus disputé. On ne peut pas ne pas parler, bien sûr, du pays hôte qui, lui, continue ses répétitions et qui se passe apparemment très bien lors de la trêve, la fenêtre, bien sûr, internationale en tout cas, dernière. Amin Birouk, est-ce qu'on peut dire que finalement, Walid Regragui a recommencé, disons, à mettre cette équipe-là sur les rails?
À mettre l'équipe sur les rails, surtout dans le secteur offensif, avec une animation de jeu très intéressante. C'est une équipe qui a marqué 23 buts lors des dernières rencontres officielles, pour un seul but concédé. Maintenant, il y a le chantier de la défense centrale qui, pour remplacer Romain Saïs à côté, et qui mettre à côté de Naïf Aguerd. Est-ce qu'il y a d'autres doublons pour Amrabat? Voilà aujourd'hui les soucis du riche qu'a la sélection marocaine. Il va passer un véritable test au mois de novembre puisqu'il se déplacera au Gabon du côté de Franceville. Ce sera le seul déplacement dans des conditions différentes, avec une équipe gabonaise qui sera transcendée par son public et qui voudra prendre au moins le point de la qualification avant d'aller se déplacer face à la République centrafricaine. Donc, on verra dans quelle mesure cette équipe qui commence à carburer après ses déboires de la CAN va subir cette épreuve et comment elle va réagir. En tout cas, ce sera le seul déplacement. Il y aura très peu de sorties du Maroc avant la CAN. Il y aura peut-être au mois de septembre prochain un autre voyage à Lusaka en Zambie. Et ce sera d'ailleurs la seule fois où les Marocains s'exhiberont à l'extérieur. Donc, on verra. Mais pour l'instant, tout sourit pour cette équipe avec des doublures qui ont retrouvé des couleurs, des titulaires qui ont pu se reposer et un public enchanté par son équipe nationale.
Les matchs de la 5e journée vont se jouer le 11 novembre et ceux de la 6e journée le 15 novembre, et donc juste 4 jours plus tard. La phase finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler au Maroc, bien sûr, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Je l'annonçais, la CAN de Beach Soccer à présent qui se joue dans le sable égyptien. Amine Birouk, direction donc Casablanca. Le Maroc est le premier qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire ce jour 5-2 face au Ghana. Amine, si vous m'entendez. Amine Birouk, si vous m'entendez. Amine Birouk, apparemment vous êtes muté, donc vous avez coupé votre micro, il faudra le remettre. Ok, Amine, vous m'entendez maintenant? Je le disais, le Maroc est le premier pays, bien sûr, qualifié pour les demi-finales hein, de la CAN de Beach Soccer grâce à sa victoire ce jour 5-2 face au Ghana. On va essayer de reprendre Amine Birouk parce que visiblement il a des soucis de micro. Alors, Amdinsi, de leur côté, après avoir été surpris hein, par la novice, la Mauritanie 2-5, les Sénégalais ont laminé cette fois-ci le Malawi 6-1 aujourd'hui et se relancent donc dans cette compétition. Des soucis avec Amdinsi également. Peut-être qu'on va... On va essayer. Oui, oui Amdinsi, oui, vous m'entendez, allez-y.
Oui, je vous avais perdu. Oui. Mais c'est vrai, hein, puisque, comme vous l'avez dit, hein, les Lions de la Teranga du football de plage... Hein, qui avaient quand même mal débuté cette compétition, puisqu'ils avaient perdu hein, le premier match par 5-2. Ils se sont repris hein, parce qu'ils ont battu le Malawi. C'était un match hein, des mal classés entre le Sénégal et le Malawi, puisque ces deux équipes ont été battues quand même respectivement par la Mauritanie et le Mozambique. Donc, il fallait nécessairement réagir et les Lions l'ont fait en s'imposant face aux Flammes sur le score de 6-1, comme vous l'avez dit, grâce à des buts de Seydina Magnon, de Ousseynou Fall, de Seydina Mam Alassane Lai Gadiga, de Sanoulaye Diaw et de Magnon Ndiagne. Donc, ils reviennent dans la course après cette victoire, mais il faut dire que rien n'est encore fait hein, dans ce groupe B, puisque le Sénégal, comme vous le savez, qui est non seulement champion en titre, mais qui détient le record hein, avec 7 victoires, dont 4 consécutives. Donc, le Sénégal est libre à battre durant cette compétition et les Sénégalais auront fort à faire puisque le dernier match, ils vont affronter le Mozambique qui est leader de ce groupe alors que la Mauritanie va rencontrer le Malawi qui est déjà éliminé. Donc, rien n'est encore fait. Tout reste à prouver pour ces Lions de la plage de la Teranga. En tout cas, ce sera très difficile pour décrocher la qualification pour cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique de Beach Soccer qui se déroule en Égypte, Yacouba.
Les Mauritaniens, on va le rappeler, hein, qui ont été freinés aujourd'hui par les Mozambicains, 3-0 et qui joueront donc leur qualification face au Malawi. On va repartir du côté de Casablanca pour essayer de retrouver une fois de plus Amine Birouk. Je le disais, le Maroc est le premier pays qualifié pour les demi-finales de cette CAN de Beach Soccer, 5-2 aujourd'hui face au Ghana.
4-3 lors du premier match face à la Tanzanie, 5-2 aujourd'hui face au Ghana. C'était plus laborieux lors du premier match. Là, l'équipe du Maroc a déjà, lors du deuxième match face à l'équipe du Ghana, elle a pris les devants, elle menait 2-0, retour 2-1, 3-1. 4-1, 4-2, puis 5-2. Donc, il y a eu de la marche face à cette équipe ghanéenne. Beaucoup plus laborieux le premier match de samedi contre la Tanzanie, où les Marocains ont été menés deux fois au score. Là, on a l'impression qu'ils commencent à prendre leur marque, et puis tout se décidera dès demain contre l'Égypte. Ce sera une suprématie sur ce groupe. Il va falloir décider, trancher. Et puis aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'il faut faire des calculs pour éviter le Sénégal, qui est un peu l'épouvantail de la compétition, mais le Sénégal est en ballottage défavorable. Donc finir premier et retrouver potentiellement le Sénégal qui pourrait finir second, ou bien tout miser sur la demi-finale, laisser le match en roue libre contre l'équipe égyptienne et reposer les cadres. Ce sont des questions que doit se poser le staff technique de l'équipe du Maroc. En tout cas, le Maroc, comme d'habitude, sera fidèle au rendez-vous des demi-finales, mais c'est un peu le plafond de verre des Lions de l'Atlas qui n'ont jamais atteint la finale. Et justement, la finale, c'est le sésame pour aller à la prochaine Coupe du Monde aux Seychelles, puisque seuls les deux qualifiés pour ce stade de la compétition représenteront notre continent lors de cette grande messe du beach soccer africain et mondial.
Hors des terrains, la Confédération africaine de football tient demain, mardi, sa 46e Assemblée générale ordinaire à Addis Abeba, en Éthiopie. Donc au menu, des discussions sur l'avenir du foot africain, suivie d'une conférence de presse avec le président de la CAF, Patrice Motsepe. Amine Birouk, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui pourrait changer?
Qu'est-ce qui pourrait changer? C'est un point du règlement qui empêche pour l'instant toute personne âgée de plus de 70 ans membre du comité exécutif de la CAF de se présenter à la présidence. Et aujourd'hui, ce point du règlement pourrait être amendé. En tout cas, ça a été discuté lors du dernier COMEX, ça a été rediscuté aujourd'hui lors du COMEX, et ça pourrait ouvrir l'éventail des potentiels candidats à la présidence. Le congrès électif, c'est le 12 mars prochain en Égypte. Motsepe, Patrice, est candidat à sa propre élection, mais si on ouvrait cette petite fenêtre, cela permettrait à l'Égyptien, par exemple, Hani Aburida, 71 ans, de se présenter. Et ça changerait la donne. Hier, Motsepe a rencontré les différents de représentation régionale, UNAF, CECAFA, COSAFA et UFOA 1 et 2, et il a annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession. Et aujourd'hui, on sait que le groupe UNAF ne serait pas très chaud pour le soutenir. Si Hani Aburida se présente, ça change la donne, ça offre une élection démocratique avec plusieurs candidats. On est loin du scénario où il y avait eu le compromis de Rabat qui avait permis l'élection de Motsepe et qui avait donné des strapontins ou des postes de vice-président aux trois autres candidats il y a 4 ans, savoir le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, Jacques Hanouma qui est devenu super conseiller du président et le Mauritanien Ahmed Yahia qui reste un peu l'outsider de la compétition mais qui pourrait laisser passer son tour puisque c'est le plus jeune des candidats et le temps fera son œuvre pour le candidat mauritanien.
Alors justement, Jules Valentin Gouin, on a entendu Amine Birouk le dire, sauter ou pas le verrou de l'âge, avancer ou recul?
Oui, mais disons que en fait, l'âge, on ne voit vraiment pas pourquoi on a mis ce verrou, mais toujours est-il que, quelles que soient les conditions qui sont présentées, il faut quand même éviter que nous, en Afrique, on remette toujours en cause les disons que ce qu'on a mis en place est parfois à la tête du client. Parce que l'homme de la rue se dira que ça a été fait parce que c'est une équipe qui a été adoubée par Monsieur Infantino au niveau de la FIFA, qui est habitué à cette compagnie et peut-être qu'il ne veut pas se séparer de certaines personnes. Donc, il faut pas s'amuser à voter des lois qu'on aura du mal à respecter. 70 ans, c'est pas beaucoup. Donc, logiquement, à 110 ans, on a une entreprise qu'on dirige et on peut diriger très sereinement aussi le football africain.
Voilà, du football africain, on passe au foot européen avec la Ligue des Champions, nouveau format qui se poursuit demain avec les matchs de la 3e journée de la phase de poule. Élysée, Bayern Munich Barcelone ou Barcelone-Bayern Munich, le PSG qui fait face au PSV, le Real qui devrait se relancer après, j'allais dire, le faux pas à Lille 1-0, pas mal d'affiches. Très rapidement.
Pas mal d'affiches, hein, avec surtout ce nouveau format qui va épuiser énormément les athlètes, il faut le dire. Certains même en ont fait cas, notamment l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui n'a jamais cessé de le dire. Plus de matchs, vous imaginez, mais sur le terrain, il y aura du beau jeu, puisque le Real qui peine et qui a le devoir de réagir, eh bien, il y aura encore les retrouvailles entre le FC Barcelone, bien évidemment, et contre le Bayern de Munich, Hansi Flick, hein, l'actuel entraîneur du FC Barcelone, qui était sur le banc du Bayern de Munich, qui avait infligé ce sacré 8-2, vous imaginez. Donc, il y aura de la revanche dans l'air. Et puis, et le Paris Saint-Germain, qui, quand même s'est fait une bouffée d'air en championnat en atomisant bien évidemment le FC Strasbourg et qui a bien sûr aussi le devoir de réagir en Ligue des Champions, mais ça va être très très difficile face à ces Hollandais-là. Une chose est sûre, on aura de très belles affiches, on aura du spectacle comme la Ligue des Champions nous a toujours servi.
On espère bien. Art Martiaux Mixte, justement, très rapidement, quasiment 3 ans après son dernier combat MMA, la star des lourds, Francis Ngannou, n'a eu besoin que de 3 minutes 32 secondes pour anéantir le Brésilien Renan Ferreira samedi à Riyad en Arabie Saoudite sous la bannière du PFL. Alors Jules, c'est un retour simplement gagnant pour Francis Ngannou dans sa discipline de prédilection.
Retour spectaculaire pour Francis qui montre que chacun doit réellement rester dans son couloir parce que la MMA, ça c'est son sport de prédilection, mais la boxe anglaise c'est autre chose. Donc on voit que il a perdu un peu de sa cote avec ses deux derniers combats qu'il a perdu contre des boxeurs de la boxe anglaise chevronnée. Et finalement, il retrouve son terrain et il retrouve ses réflexes. C'est une bonne chose et un bon encouragement pour les boxeurs africains en général qui trouvent peut-être à travers ce combat de gladiateurs que représente le MMA et une discipline où beaucoup de jeunes vont également gagner leur vie.
Voilà, chacun doit rester dans son couloir. Je sais que lui, son couloir de prédilection, c'est bien le basketball. On parle de la nouvelle saison NBA qui débute demain mardi avec de grosses ambitions pour les équipes, que ce soit Dallas, Boston, les Lakers, les Clippers, les Warriors, entre autres. Amdine Si, d'aucuns disent que les Boston repartent favoris pour cette nouvelle saison. Est-ce que c'est un avis que vous partagez?
Ah oui, je partage cet avis parce que on le sait, cette saison, les grands favoris sont Boston, Philadelphie, New York et Dallas. Comme vous le savez, hein, Boston qui a été sacré l'année dernière, Boston qui avait quand même brillé lors de la saison régulière avec 64 victoires et 18 défaites avant de balayer tout sur son passage lors des playoffs. Comme vous le savez, hein, Boston n'avait concédé que 3 petites défaites lors des playoffs pour remporter ce titre. Donc Boston sera l'un des grands favoris. Mais attention, attention, des équipes comme Philadelphie, hein, du Cabournais Joel Embiid pourra jouer leur rôle de trompette, surtout que cette année, ils ont un renfort puisque Joel sera épaulé par Paul George, qui n'est pas n'importe qui. En tout cas, c'est un championnat très ouvert, la grande messe du basketball mondial avec du spectacle et de l'efficacité. On en salive déjà puisqu'on va regarder 80 matchs pour cette première phase qu'on dit phase régulière, Yacouba.
Alors justement, Élisée, très rapidement votre avis avant de mettre fin à cette émission. Joel Embiid et Philadelphie favoris, est-ce que c'est votre avis?
Oh bon, pas du tout. Mais bon, c'est un grand saoudien, il faut le dire, puisque Philadelphie court derrière ce sacre depuis fort longtemps. Et Embiid, quand même, c'est l'occasion rêvée d'aller chercher ce titre tant attendu. Mais comme l'a dit Amedine Si, attention à Boston. N'oublions pas aussi les Lakers qui sont toujours là avec LeBron James et son enfant et surtout avec Stephen Curry qui reste toujours à l'affût.
On espère bien pour LeBron et Bronny James, père et fils donc à NBA. On l'espère bien aussi pour Stephen Curry, champion olympique. On se rappelle, hein, l'été dernier à Paris. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatin, Jules Valentin Ngwe, Amine Birouk, Amdine Si. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.